Jean-Louis Grenda, nous sommes dans la salle de l'Opéra d'Avignon. Dans quelques jours, nous allons découvrir Le Turc en Italie, qui est présenté comme le dernier épisode de triptyque des Turqueries, écrite par Rossini. C'est quoi exactement une Turquerie ?
Bah, faut demander à Molière, hein. C'est lui qui a commencé. Enfin, c'est un de ceux qui a commencé. C'était des Turqueries, c'est quoi ? C'était des pièces de théâtre ou des opéras, en l'espèce, où on faisait intervenir un étranger qui vient du Moyen-Orient. Donc la Turquie, c'était le bout, hein. Voilà. Donc c'est ça, tout simplement. Il arrive avec les apparats d'un grand seigneur de Turquie, mais il n'est jamais traité de façon ridicule. Et au contraire, c'est un homme plutôt sincère. Il va tomber sincèrement amoureux de... Enfin, il va être intéressé par cette belle femme qui est Fiorine, là. Au début, il ne sait pas qu'elle est mariée. Bon, enfin, ça ne le gêne pas, hein. On va dire que ça, il n'est pas jaloux. Mais en dehors de ça, il va retrouver sa bien-aimée qu'il avait chassée par erreur quelques années auparavant. Enfin, tout est bien qui finit bien. Et je trouve que Rossini ne lui fait pas un mauvais traitement. Vous voyez, il en fait vraiment un personnage, je trouve, attachant, avec un très bel air d'entrée, superbe, avec beaucoup de choses à chanter dans le spectacle, mais on se moque plus des Napolitains que du Turc en espèce.
Par rapport à l'intrigue, en fait, avec l'épouse qui est vendue, on a un côté très truculent, à la fois un peu sordide, qui rappelle un peu les comédies italiennes, et c'est un peu le théâtre de Goldoni au départ.
Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être effectivement comparé au théâtre de Goldoni, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus génial là-dedans. Non pas que Goldoni ne soit pas génial, mais il y a quelque chose de beaucoup plus moderne. C'est qu'en fait, on assiste, en voyant le Turc en Italie, 1814 quand même, on assiste à l'invention du méta-théâtre, c'est-à-dire du théâtre dans le théâtre, ou du méta-opéra plutôt, l'opéra dans l'opéra. En fait, il invente 6 personnages en quatre d'auteur exactement 100 ans avant Pirandello. C'est ça qui est passionnant là-dedans. Et vous imaginez, c'est son troisième opéra, la modernité du propos. La modernité du propos est absolument incroyable. Or, ça vient juste dans sa production après un autre opéra qui était l'Italienne à Alger. Alors, l'Italienne à Alger, c'est quelque chose de beaucoup plus classique dans la facture. Le public milanais se dit, bon, ben, on va voir un truc comme l'Italienne à Alger, mais pas du tout. C'est pas l'Italienne à Alger renversée avec un Turc qui vient d'Italie, c'est rien à voir. C'est en fait, le rôle principal, c'est un poète qui cherche désespérément un sujet. Et il ne trouve pas son sujet, il va créer son sujet de son prochain opéra avec les personnages qu'il rencontre sur scène. Et c'est ça qui est formidable. Et par moments, il y a un commentaire complètement off, ce qui est d'une modernité incroyable pour l'époque. Il s'adresse au public en disant, bon, alors maintenant je vais faire ça, voilà comment je vais... Il y a deux actions qui se passent. Finalement, il y a la recherche du poète qui cherche un sujet et qui écrit sa pièce, et des personnages qui sont, eux, des archétypes et qui développent leur histoire propre, mais qui n'est qu'un deuxième plan dans tout ça, et ils sont manipulés intégralement par ce poète. C'est ce que je vais montrer dans le spectacle, d'autant plus que tout se passe à l'intérieur d'un théâtre, bien évidemment.
Alors justement, puisque vous parliez de théâtre dans le théâtre, de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, là on est dans la salle de l'opéra, j'ai un décor devant moi qui représente finalement
une cage de scène,
c'est-à-dire c'est un petit peu, on est dans la salle et en même temps c'est comme s'il y avait une salle de l'autre côté.
Voilà, on est sur scène et vous avez un rideau de fer, et comme toujours à l'opéra, bien, ce rideau de fer va se lever et il va y avoir derrière des choses à voir qui sortent de l'ordinaire. L'arrivée du Turc, un bateau qui vogue sur l'eau, le Vésuve, ça se passe à Naples, hein, donc le Vésuve en éruption, une nuit étoilée, les feuilles du poète de sa pièce qui vont s'envoler pour signifier l'immense crescendo qui finit le premier acte, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que tout part d'une scène de théâtre nue.
Le décor, il est signé Rudy Sabungui, dont on a pu voir le travail déjà dans Le Chevalier à la Rose, mis en scène par Jean-Claude Berruti en tout début de saison. Comment vous pourriez qualifier vos rapports avec cet immense scénographe ?
Je les qualifierais d'amicaux avant tout, puisque c'est un grand ami, de très ancien, puisqu'on s'est connus en 1984. Vous voyez, donc ça va bientôt faire 40 ans, et puis on a fait beaucoup de productions ensemble, donc on se connaît parfaitement l'un l'autre. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour développer un projet, des fois, on a besoin de parler beaucoup. J'ai fait des projets assez fous avec lui, comme Mephistophélé, comme Falstaff, comme ce Turc en Italie également. Mais il est indissociable du travail que je fais également avec Laurent Castin, merveilleux éclairagiste, avec lequel je collabore le plus souvent possible, et de Jorge Yara, qui crée des costumes. Et c'est un ensemble, tout ça. Vous voyez, c'est pas seulement une belle scénographie. Elle est formidable, la scénographie. Mais c'est avec des lumières bien spécifiques et avec des costumes tout à fait extraordinaires de Jorge Yara, qui est un magicien lui aussi. Voilà. Vous savez, il n'y a pas de secret dans mon métier. Il faut toujours s'entourer de gens meilleurs que soi.
Le spectacle, je vais le découvrir vendredi soir. Mais j'ai vu des photos, alors on voit l'éruption, on voit le bateau. J'ai eu l'impression qu'on était un peu dans le spectacle de très tôt. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu de Goldoni.
C'est une très bonne observation. C'est vrai qu'on est dans un spectacle qui doit donner l'apparence de la fragilité. Comme tout ce qui est théâtre en direct, hein, voilà. Comme on construit tout devant les yeux du public, c'est très précis, mais en même temps, ça doit donner l'impression d'un peu du bric-à-brac et de l'improviser. La grande improvisation à l'italienne, vous voyez ? C'est ça, c'est pour ça que dedans, il y a ce rideau de fer, il y a des projections vidéo derrière, il y a aussi trois tapis roulants. Les personnages rentrent comme des mécaniques, si vous voulez, sur des tapis roulants, etc., etc., etc. Il y a des décors qui tombent des cintres, qui remontent rapidement, qui coupent l'action en deux. Voilà, tout ça, c'est un très gros travail de minutie, parce que comme tout ce genre de choses-là, c'est une mécanique de précision qu'il faut très prudemment mettre en place pour que tout soit parfait, car c'est de cette perfection-là que va naître le chaos.
J'ai vu également des extraits en vidéo, toujours sur Internet, captés dans un lieu que vous connaissez bien, c'est l'Opéra de Monte-Carlo. Et la furie, là, quelle furie, là ? C'était Cecilia Bartoli. Là, on aura une distribution totalement différente.
Oui, mais formidable, avec des jeunes chanteurs que je découvre. Frédéric Roule, ça fait un travail remarquable, parce que c'est un opéra qui est peu joué, et donc il faut réunir une belle distribution. Et alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de le faire avec des artistes exceptionnels, comme Bartoli, comme Nicolas Laimo, et d'autres. On l'a joué à l'Opéra de Monte-Carlo, on l'a créé en janvier 2022. On l'a repris, alors je le dis avec un peu de fierté et sans fausse modestie, on l'a repris au Staatsoper de Vienne en fin juin, début juillet dernier de cette année, de 22. Et là, je dois vous dire que j'ai eu les plus longs applaudissements de mon existence puisque ça a duré 30 minutes à toute la représentation.
Un petit mot sur cette furie, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé des airs. C'est vrai que là, on est vraiment dans le bel canto.
Ah oui, là, il faut savoir chanter, ça c'est sûr. Voilà. Il faut avoir la science du beau chant, c'est ce qu'est le bel canto, avec une ligne de chant impeccable, avec beaucoup de vocalises, avec des aigus et des graves. On a la chance d'avoir une très jeune artiste roumaine, Furina, qui est absolument remarquable, qui a toute cette fantaisie et avec une très jolie voix. Alors, on joue ici avec un orchestre moderne. Moi, quand je l'ai fait avant, c'était avec les Musiciens du Prince. C'est donc avec un diapason à 430. Ici, on joue à 442 ou 444, je ne sais pas. Mais donc, ce n'est pas tout à fait la même esthétique. Mais ça marche parfaitement bien également. Là, on était plus avant dans les instruments de l'époque de Rossini, hein, donc, qui viennent un peu du baroque. Et puis là, maintenant, c'est des instruments modernes. C'est toujours aussi intéressant à faire. Le chef est vraiment remarquable, c'est quelqu'un qui se plie vraiment à l'action scénique, vous voyez, qui veut épouser par son rythme l'action que je souhaite montrer sur scène. Et on a fait un travail vraiment commun, tout à fait intéressant, qui a rendu pour moi ces répétitions joyeuses ici à l'Opéra d'Avignon.
Quand on va voir un spectacle que vous mettez en scène, que ce soit à Orange ou à Avignon, dans un théâtre à l'italienne, on sait qu'on va voir du spectacle. Et en même temps, l'ouvrage est parfaitement respecté, les personnages, l'esprit, la musique évidemment, et également les interprètes.
Ben parce que moi j'aime raconter des histoires, voilà. Enfin, je vais vous donner la définition de mon travail finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Je pense en être un. Eh bien un artiste, c'est un enfant qui a de l'expérience. Voilà. Je garde l'œil gourmand de l'enfant que je suis resté, et je pense que les spectateurs, quand ils viennent au théâtre, que ce soit pour une pièce de théâtre ou un opéra, un ballet, ils viennent s'asseoir dans une salle, ils savent très bien que ce qu'on montre sur scène n'est pas vrai. Mais néanmoins, ils ont envie d'y croire, comme un enfant a envie de croire à ce qu'on lui raconte, aux histoires que lui raconte son papa, sa maman, sa grand-mère, les conteurs, on a envie de croire à ça. Et moi, je respecte ça. Alors, je ne respecte pas toujours ni l'époque, je ne respecte pas forcément la géographie, je peux apporter pas mal de modifications, mais je respecte le spectateur en ce sens que je le prends pour ce qu'il est, à mon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la volonté de s'émerveiller. Et c'est ça qui me plaît.
Ce Turc en Italie, quel est le programme là, avant la première, puisque nous sommes mardi soir ?
Alors on est mardi soir, ce soir c'est ce qu'on appelle la pré-générale, donc tout le monde en scène, costumé, maquillé, perruqué, prêt à jouer normalement. Demain soir, mercredi, c'est la répétition générale. Alors là, théoriquement, tout doit être prêt. Ce soir, je ne peux pas encore changer les petites choses. Demain soir, c'est la générale. Tout doit être prêt, carré. Tout le monde sait bien ce qu'il a à faire. La technique a une énorme part dans le spectacle parce que c'est un spectacle qui est techniquement assez virtuose. Et puis après, voilà, les gens se reposent un jour avant d'attaquer le spectacle vendredi. C'est la vie.
Bon séjour à Avignon.
Merci.